Au quotidien, avec Denis Martin Chabot.
24 juillet 2025. Bonjour, 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 bonjour. Quatre fois bonjour parce que c'est beaucoup mieux. Hein? C'est tellement mieux qu'une seule fois. Et c'est le retour de notre ami Dex aujourd'hui. Tu connais Mathieu, notre ami Dex? Son prénom, c'est Umi, Dex.
Ouais.
Ça va être une chaude journée. Pas mal partout dans le sud. En fait, partout au Québec, mais les avis de chaleur sont particulièrement élevés là, pour la région de Montréal, le sud du Québec, le sud de l'Ontario. Des humidex. Notre ami humidex va aller jusqu'à 43, même 46 dans le sud de l'Ontario. Et ça va se terminer avec quoi? Notre ami enragé. Rage, orage. Bon, OK, j'arrête les jeux de mots. C'est donc le 24 juillet. Je vais aller rapidement et puis après ça, on va parler avec notre monde autour qui est là aujourd'hui. C'est aujourd'hui donc le 205e jour de l'année. Il en reste 160 avant le 31 décembre. Et aujourd'hui, dans l'histoire, 1534, ça c'est une date qu'on apprenait dans nos cours d'histoire, Jacques Cartier, explorateur français, atteint le Canada et plante une croix sur la péninsule de Gaspé. Alors, c'était le début de l'exploration française en Amérique du Nord ou, selon d'autres points de vue, de l'occupation des colons français. Alors, il y a toujours deux versions de l'histoire. Au Pérou, en 1911, redécouverte du Machu Picchu par l'explorateur états-unien Hiram Bingham. Cette cité inca, perchée dans les montagnes des Andes, est aujourd'hui l'une des merveilles du monde et un site touristique majeur. Cap Canaveral, en 1980, lancement de Viking 1, la première sonde états-unienne à réussir un atterrissage ou un amarcissage sur Mars. Et elle envoie les premières images avec un gros plan de la surface martienne, marquant un jalon important dans l'exploration spatiale. Ah ben tiens, un petit peu de musique. Ah, on l'a pas. Ah, attends un peu.
Oups, c'est mon erreur, en fait.
Ah, ça arrive. Ben, pour une fois que c'est pas la mienne, moi, j'en fais toujours au moins deux ou trois par minute. Bon, je vais passer à autre chose. Quand on se reprend, on le présentera. Alors, 1783, c'est Simon Bolivar, militaire et homme d'État vénézuélien, nommé El Libertador. Oui, voilà. Il est l'une des figures clés de l'indépendance d'Amérique latine. Et puis, en 1969, c'est la naissance de Jennifer Lopez, chanteuse, actrice, productrice états-unienne, qui est devenue une icône mondiale grâce à sa carrière dans la musique et le cinéma et la télévision. Et puis, Anna Paquin, ou Paquin, actrice canadienne, en 1982, lauréate d'un Oscar pour son rôle dans La leçon de piano. Hein. C'est un très beau film. Justement, tandis que tu es là, Yvan, tu as vu ce film, La leçon de piano? Yvan Deslauriers, oui. Qui fait une chronique aujourd'hui. Oui. C'est un beau film.
C'est un très, très beau film. C'est peut-être le genre de film que faudrait regarder aujourd'hui parce qu'on va rester à l'intérieur, probablement à cause de la chaleur.
Oui, justement. C'est une très, très bonne idée de parler de cinéma aujourd'hui. Bon, il paraît qu'on est prêt pour ma petite surprise. On y va. Ben oui, alors, en 2007, c'était la sortie du film Les Simpsons. Ça avait été un record, un succès du box-office mondial. Savez-vous que ça date de 1987 et officiellement comme série de 1989? Alors, 1987, ça veut dire donc 38 ans. Fait que Bart, qui a à peu près quoi, 8 ans à l'époque, il serait presque, il approcherait de ses 50 ans. T'écoutes ça? Veux-tu écouter ça, Yvan, les Simpsons?
Non, ça, je dois avouer que j'ai pas accroché à ça.
C'est une critique de la société américaine assez dure. Faut dire qu'à un moment donné, moi aussi, là, j'écoute plus depuis un bout parce que, bon, j'en ai assez vu, mais j'apprécie cette famille dysfonctionnelle qui ressemble à des familles dysfonctionnelles un peu partout dans le monde. Et puis, mm-hmm. Ouais. Et puis, c'est quand même étonnant que ça dure quand même, en fait, officiellement comme série depuis 36 ans, mais officieusement parce que c'était diffusé en petit clip dans une autre émission depuis 1987, donc 38 ans. Oh mon Dieu!
Ouais, hey. Ce qui est particulier aussi, c'est la version québécoise oui. De cette série-là. Et j'ai eu le bonheur d'interviewer Béatrice Picard justement à ton micro à un moment donné,
oui.
Qui avait joué la mère Simpson.
Oui, oui, oui. Oui, alors, il y a Homer. Alors, là, c'est, tout à coup, j'ai comme un trou de mémoire.
C'est Marge.
C'est Marge. Ben Marge. Oui, Marge, avec la grande perruque sur la tête. Ah oui. Tu vas nous parler de quoi, donc, aujourd'hui, Yvan, dans ta chronique?
Denis, est-ce que tu connais les Sourlympiques?
Les Sourlympiques?
Ouais.
Wow, ça, c'est un terme intéressant. J'imagine que ça implique des personnes sourdes.
Oui, c'est ça. Et mon Dieu, moi, j'ai fait une émission spéciale l'année dernière, une série de 4 émissions à propos des Paralympiques où je parlais avec des athlètes. Mais moi, Sourlympique, je ne savais pas ce que c'était. Donc oui, ce sont des Jeux olympiques pour les personnes vivant avec une surdité. Et c'est un article de Kevin Breton, notre Kevin Breton.
Oui.
On dit toujours notre, même s'il est rendu dans les grandes sphères. Et qui nous parle d'une joueuse de golf qui s'appelle Sacha Laun, qui va participer aux Sourlympiques. Et il en profite pour nous expliquer tout ce qui tourne autour de cette activité-là.
Oui, Kevin Breton, qu'on a vu hein, aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques à Paris, comme chroniqueur aussi, il a fait les deux.
Oui.
Vraiment génial. Moi, je vais vous parler aussi, j'ai 2 entrevues aujourd'hui. On va parler d'un quartier 1010, une espèce de théâtre participatif dans le quartier Chagrin-Maisonneuve. Ça semble très intéressant. C'est une espèce de... Ben, c'est savoir qui a commis le crime. Et puis, bon, ça va revenir dans 2 semaines, au mois d'août, pour ceux qui veulent y participer. Puis on va faire un petit coucou au Festival de la Naudière qui se termine la semaine prochaine avec... on sait qu'il y a encore des grands concerts. Il y a Kent Nagano qui va être là. Et puis moi, rapidement, je veux dire qu'hier, je suis allé voir. Il reste quelques représentations. Je pense que ça se termine le 27 juillet. C'est Chicago, version québécoise. Alors, c'est pas nouveau. Cette version-là a été faite il y a 20 ans et c'est repris cette année. Et je vais souligner là, le travail extraordinaire de Véronique Dicker et de Tera Chico-Tosto-McLeod, alors qui font respectivement Velma et Roxy, pour ceux qui connaissent l'histoire de Chicago, et l'équipe de danse. C'est un spectacle rodé, tout est parfait, vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Alors, chapeau au Festival Juste pour rire de nous présenter ça. Et puis, aujourd'hui, je reprends mon habitude du jeudi nostalgie. Alors, on y va avec une nostalgie.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces doux appellas, les amours s'y passent. Il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Dans ce désert, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je dirai sans
On la connaît, cette chanson-là?
Je pense que oui, pour que tu m'aimes encore.
Oui, pour que tu m'aimes encore, de Céline Dion. J'ai vu Céline chanter cette chanson il y a plusieurs années, lorsqu'elle chantait à Vegas, du temps que j'allais encore aux États-Unis. Et c'était super comme production, mais cette chanson, elle est superbe, mais en même temps, j'ai dit, mon Dieu, c'est une chanson qui est un éloge à la dépendance affective. Bon, je termine là-dessus. Je reviens pour vous dire quand même, je suis allé voir Chicago, je vous en parle. Pourquoi? Parce que vous savez que Juste pour rire a connu, l'année dernière, hein, ça a été difficile. C'est ce qui se passe aussi avec son ancien président, directeur général. Je pense que cette année, Juste pour rire nous montre qu'il se relève. Il se relève de moments difficiles et cette production vraiment va valer la peine. Je vais vous faire une petite une rapidement aujourd'hui parce que c'est quand même une nouvelle qui est absolument abominable. Je vais vous parler de cette famine à Gaza. Israël s'est défendu d'être responsable, donc c'est un article de l'agence France Presse qui est reproduit dans Le Devoir. Israël s'est défendu d'être responsable de la pénurie de nourriture dans la bande de Gaza et a accusé le Hamas d'avoir provoqué une crise humanitaire en réponse aux critiques d'organisations internationales sur une propagation de la famine dans le territoire palestinien. Israël fait face à une extrême pression internationale pour mettre fin aux souffrances des plus de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza ravagés pendant 21 mois de guerre et soumise à un blocus qui prive la population d'aide humanitaire vitale. Hier, la défense civile gazaoui a annoncé la mort de 17 personnes, parmi lesquelles une femme enceinte, dans des frappes israéliennes, tandis que l'armée a affirmé avoir bombardé des dizaines de cibles terroristes. Après avoir assiégé Gaza au début de la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas en octobre 2023, Israël a imposé au territoire un blocus total début mars qui est très partiellement assoupli depuis la fin mai et qui a entraîné des graves pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant. C'est la souffrance pour nourrir nos enfants. Je risque ma vie pour apporter un sac de farine, a raconté Mohamed Abou Jabal, qui est déplacé de Beit Lahia dans le nord de Gaza. Nous sommes en train de mourir, ayez pitié de nous. Nous voulons manger, a-t-il ajouté, après avoir récupéré un sac de farine. Nous dormons l'estomac vide, nous avons faim, lance un autre Palestinien. Une grande proportion de la population de Gaza meurt de faim, a affirmé hier le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Pour la France, le risque de famine à Gaza est le résultat du blocus imposé par Israël. Mardi, un hôpital de Gaza a affirmé que 21 enfants étaient morts de malnutrition ou de faim en 72 heures. Alors qu'une famine de masse se propage à Gaza, nos collègues et les personnes que nous aidons dépérissent, ont déclaré conjointement une centaine d'ONG, parmi lesquelles on retrouve Médecins sans frontières, Médecins du monde, Caritas, Amnesty International et Oxfam International. Ils en appellent à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de passages pour l'aide. Juste à l'extérieur de Gaza, dans des entrepôts et même à l'intérieur, des tonnes de nourriture, d'eau potable, de fournitures médicales et de matériel d'hébergement et de carburant restent inutilisés. Les organisations humanitaires sont empêchées, disent être empêchées d'y accéder ou de les livrer, ont-elles donc ajouté. De son côté, donc, Israël rejette la faute sur le Hamas. Le gouvernement israélien s'est défendu en affirmant qu'il n'était pas responsable des pénuries. À Gaza, aujourd'hui, il n'y a pas de famine causée par Israël, a déclaré son porte-parole David Mentzer. Il s'agit d'une pénurie provoquée par le Hamas, a-t-il ajouté, en accusant le mouvement palestinien d'empêcher la distribution de l'aide. Alors, c'est ça. Il y a des... Je rappelle donc que l'attaque menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, ça va faire bientôt 2 ans, a déclenché une guerre qui a entraîné du côté israélien, donc on parle de 1219 morts, à majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent otages à Gaza, dont 27 qui ont été déclarées mortes par l'armée. En riposte, Israël a lancé une offensive à Gaza qui a coûté la vie à 59 219 personnes, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Mais on s'en va tout de suite voir notre très cher Yvan Deslauriers. Salut Yvan.
Bonjour Denis Martin.
Donc on va parler des Sourlympiques.
Des Sourlympiques, oui, c'est un terme que j'avais jamais entendu, que j'avais jamais lu. Puis pourtant, vous allez voir dans l'article, ça existe depuis fort longtemps. Alors, on va parler d'une golfeuse québécoise qui s'en va aux Sourlympiques. Ça va être au mois de novembre prochain. C'est un article qui a été créé par Kevin Breton. C'est sur le site de ICI Radio-Canada depuis hier. Donc, on demande à Sacha Laoun, qui est la golfeuse en question, un tournoi de golf pour les personnes sourdes, est-ce bien différent de ceux qu'on a l'habitude de voir? Et elle répond, pas vraiment. La seule différence, c'est que si on crie « four » pour avertir une joueuse, ça ne fonctionnera pas.
Ah, ouais, en effet.
Alors, la Québécoise a vécu les deux. Elle a participé à différents championnats canadiens et provinciaux et a aussi représenté les Carabins sur la scène universitaire. Petite parenthèse, j'ai fait une mini-recherche sur Sacha Laoun. Elle a aussi étudié au Collège André-Grasset, donc on partage cette chose en commun. En parallèle, elle a participé à plusieurs compétitions réservées aux personnes sourdes ou malentendantes. Elle a notamment terminé 6e à Maynooth, en Irlande, en 2018, au championnat du monde de golf des personnes sourdes. Elle dit « J'ai commencé le golf quand j'avais 16-17 ans sous les encouragements de mon frère », indique celle qui est désormais âgée de 27 ans. « Je faisais de la natation ». Le golf, ça ne m'intéressait pas du tout au départ. Elle a finalement pris goût, même qu'elle a été couronnée championne de la saison universitaire en 2022. Mais si elle a continué dans le sport par la suite, c'est en grande partie en raison des occasions uniques qui se sont présentées à elle. Elle nous dit « J'aurais peut-être arrêté le sport si ce n'était pas des compétitions pour sourds. On m'a approché, on m'a fait découvrir l'Association des sports des sourds du Canada que je ne connaissais pas du tout. Mon premier tournoi, ça a été un coup de cœur rapidement. » Elle ajoute « Je suis arrivé dans ce milieu-là et c'est comme si tout le monde me connaissait, même si je ne parlais pas la langue des signes. » Ça a été une connexion immédiate. C'est étrange de comprendre qu'elle ne parle pas la langue des signes. On va en parler un petit peu plus loin dans l'article. Donc, il y a différents types de façons de communiquer quand on est une personne sourde. Sacha Laoun retrouvera quelques-unes de ses adversaires cette semaine au championnat canadien des sourds à Château-Bromont du 28 au 30 juillet. Certains compétiteurs s'expriment en langue signée, tandis que d'autres, comme elle, sont oralistes et utilisent un implant cochléaire. les sourds et malentendants ont leur propre réseau sportif avec des championnats au niveau provincial, national et international. Ça explique pourquoi ils ne sont pas présents aux Jeux paralympiques aux côtés d'autres personnes handicapées. Ils organisent plutôt leur propre événement, les Deaflympics ou les Sourdlympiques, qui se tiennent périodiquement aux 4 ans. Un grand rassemblement qui vise à donner l'occasion à des sportifs de s'illustrer, mais aussi à célébrer la culture sourde. Si les Jeux paralympiques se tiennent généralement dans l'ombre des Jeux olympiques, c'est encore plus le cas pour les Sourdlympiques. Les paralympiques, on se souvient de l'année dernière, se déroulent dans la même ville que les Olympiques quelques semaines plus tard. Ce n'est pas le cas pour les Sourdlympiques qui se déploient vraiment comme un événement indépendant. En raison de cela, le rayonnement médiatique est moindre et les possibilités de financement sont plus rares, explique Alain Turpin, qui est directeur général de l'Association des sports des sourds du Canada. Il nous dit « Plusieurs personnes ne le savent pas, mais les Sourdlympiques existent depuis plus de 100 ans. C'est encore plus vieux que les Paralympiques. La première édition des Sourdlympiques a eu lieu à Paris en 1924. Il n'y a pas de préjugés défavorables envers les Paralympiques. C'est un très bel événement, mais c'est multi-handicap. Ce n'est pas pensé forcément en fonction des sourds et de leur communication. » Sacha Laoun voit aussi la pertinence d'avoir un événement unique d'une grande richesse culturelle. Elle dit « Même si tu ne parles pas leur langue, les sourds signeurs font tout pour te faire sentir inclus. On trouve des moyens de communiquer avec le téléphone, par exemple. » Elle dit « C'est drôle de voir comment les signes ne sont pas les mêmes au Québec ou aux États-Unis pour le même mot en fonction des langues. » Ça donne lieu à des échanges cocasses. Ces expériences l'ont même incité à s'inscrire à un cours de langue signée québécoise. Elle dit « C'est difficile de maintenir un bon niveau quand on ne pratique pas souvent, mais j'aimerais m'y remettre. Je sais au moins le lexique du golf, le drapeau, les balles, le trou, etc. » Alain Turpin, lui, il s'en réjouit. Il dit « Sacha ne connaissait pas le langage des signes. Ça lui a permis d'en apprendre plus sur le monde des sourds, de rencontrer des golfeurs à travers la planète qui ont la même réalité qu'elle. » Il aimerait offrir un maximum de sourds canadiens. La même occasion au prochain grand rendez-vous des Sourdlympiques à Tokyo en novembre. Pour l'instant, il y a une délégation de 48 athlètes dans 9 sports qui est qualifiée. Mais le coût du voyage est un défi majeur, indique toujours le directeur de l'association. On reçoit un financement du fédéral, mais le montant n'a pas été indexé en 10 ans. On parle présentement d'un voyage d'environ 5 000 $ par personne. L'association va les soutenir à la hauteur de 1 500 ou 2 000 $, mais le reste, ça va sortir de leur poche. C'est une pression supplémentaire qu'on aimerait enlever. Pour ça, l'association a mis en place une campagne de sociofinancement avec comme objectif d'amasser 100 000 $ pour alléger la facture des participants. Ça ne serait pas trop pour permettre aux athlètes canadiens de performer dans un contexte favorable, insiste toujours Sacha Laoun. Pour l'instant, notre inscription couvre seulement une ronde de pratique. On va arriver là, on parle de Tokyo, on va arriver là avec un décalage horaire assez significatif, un changement de climat. Ça va être à nos frais si on veut disputer plus d'une ronde de pratique. Sacha Laoun se considère néanmoins privilégié d'avoir l'occasion d'aller tester les verres japonais. Plusieurs des meilleures golfeuses au monde sont asiatiques. Ça sera spécial de jouer là-bas. On a un deuxième objectif, selon Alain Turpin, avec cette campagne de sociofinancement, c'est de faire connaître le travail de nos athlètes et de notre association. Alain Turpin, qui est lui-même golfeur à 16 heures. Il dit « On espère rejoindre le public et le privé pour attirer des commanditaires. Les athlètes vont représenter le Québec et le Canada à l'international. C'est gros. Comme être sourd, c'est un handicap invisible. On pense moins à nous. Et on est un peu les parents pauvres du sport. Et ça, il trouve ça bien dommage. » Alors, c'est un article, moi, qui m'a fait découvrir une réalité que je ne connaissais pas. Donc, ça s'appelle « Une golfeuse québécoise aux Sourlympiques ». C'est un article de Kevin Breton qu'on peut trouver sur le site de Radio-Canada Sport depuis hier.
Un article fort intéressant. Puis pour ceux qui, comme moi, j'ai vraiment découvert, hein, je ne sais pas pour toi, Yvan, mais j'ai vraiment découvert les Paralympiques l'an dernier parce que les Français ont vraiment mis de l'avant ces Jeux-là et ont vraiment fait un effort pour qu'on s'y intéresse. Et je trouve ça toujours de plus en plus intéressant et de découvrir aussi ces athlètes formidables. Alors, on a le temps peut-être pour une petite brève ou deux?
Oui, ben deux petites brèves. C'est deux personnes que à l'émission Au quotidien, 5e édition, on a rencontré et qui ont fait des choses assez exceptionnelles cet été. Je commence par Stéphane Hébert, Stéphane Hébert, il a donné un rein il y a 4 ans. Et il a pris le projet, il a envisagé le projet de partir de Vancouver pour s'en venir à Montréal à vélo. Complètement en autonomie, il n'est pas accompagné de personne, il y a une petite voiturette en arrière de lui avec sa tante, puis de quoi se faire à manger, puis ces choses-là. Il est parti de Vancouver le 26 mai, je l'avais interviewé à ce moment-là. Il vient d'arriver à Aylmer hier soir. Donc, il y a sur la page Facebook Stéphane Vancouver Montréal, il y a un rendez-vous demain, 25 juillet, à 9h du matin, au parc Jacques-Cartier à Gatineau, près de la Maison du vélo. C'est au 350 rue Laurier à Gatineau. J'imagine qu'arrivé au Québec comme ça, là, il va probablement être entouré d'autres cyclistes. Là. Ça va vraiment changer sa dynamique. Lui, ça fait presque 2 mois maintenant qu'il roule tout seul à travers le Canada.
On va essayer de l'interviewer. Malheureusement, il nous reste juste une quarantaine de secondes. Est-ce qu'on peut... On a le temps de faire la petite brève en 40 ou sinon on laisse passer?
Oui. Alors, pour Stéphane Vancouver, Montréal, vous regardez, on peut donner des dons. C'est pour la Maison des greffés, c'est pour les greffes. François Bernier, lui, il est sur sa chaise roulante. Il a fait un grand voyage poussé par quelqu'un en rollerblade à travers la France. Alors, allez voir ça, c'est sur François, B-E-R-N, et lui aussi récolte de l'argent.
Ben, écoute, on va essayer peut-être, pendant que ton émission est en pause, on va peut-être essayer de leur parler, nous, ici, à l'émission Au quotidien. On se retrouve la semaine prochaine, Yvan. Merci beaucoup d'être là.
Bye.
Et nous, on s'en va peut-être dans un meurtre mystère, après la pause.
Et sur vusezvoix.com. Bon avant-midi. Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot. Thank you.
Mais je pense qu'on s'est mis un peu dans l'ambiance. Hein. J'ai commencé par le Pink Panther, ce jeudi nostalgie. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'habillage musical d'une expérience théâtrale. Je vais appeler ça comme ça parce que je n'ai jamais vu ce spectacle. Alors, on va en parler. Alors, imaginez-vous que le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal devient une scène, un théâtre d'une expérience qu'on dit ludique, immersive et unique en son genre. Alors, Viridis, vous avez entendu le nom prononcé là, dans l'habillage musical. 1001 trésors de l'Est, c'est un jeu de pistes collaboratif. Ça se tient dans ce quartier. Il y a une première représentation du 10 au 13 juillet, puis une autre s'en vient du 7 au 9 août prochain. Moi, là, ça m'intrigue. Je sais pas pour vous, là. Fait qu'on a décidé de recevoir la personne qui est l'instigatrice du projet, Alexia Berreur-Lagarouni. Lagouanari, je suis désolé. Mon Dieu, je me mêle aujourd'hui. Je pense qu'il est temps que je me repose. Alexia Berreur-Lagounari, l'instigatrice de ce projet. Alors, bonjour, bienvenue à Canalem.
Merci de m'accueillir et enchantée.
Oui, alors moi, je suis intrigué, comme tout le monde à l'écoute, là. À quoi on s'attend, là, si on participe à cet événement-là?
Alors, ben d'abord, merci de me dire que c'est intriguant parce que c'est évidemment un des fils conducteurs que les gens soient curieux, qu'ils aient envie d'en savoir plus et qu'ils se demandent un peu de manière mystérieuse qu'est-ce qui va se passer. Donc, vous êtes totalement disposé dans le bon élément.
Ben, bravo à la personne qui a écrit votre communiqué de presse parce que c'est là-dessus que j'ai pris mes informations. Puis je suis allé un peu fouiller en ligne, puis j'avoue que qu'on nous tient en haleine, hein?
Ah, ben c'est génial. Alors, c'est déjà le bon fil conducteur. Puis vous avez mis des mots-clés aussi à nos auditeurs. C'est un jeu collaboratif et c'est un jeu un peu unique parce que ça mélange plusieurs genres. Certains vont dire, ah, c'est un peu comme un meurtre et mystère, mais on n'envoie pas les cartes de personnages avant. C'est beaucoup plus ouvert et libre. Comme ça, les gens peuvent arriver et y aller vraiment de manière plus libre s'ils veulent se costumer. On a un concours de costumes puis ils peuvent être très théâtrales. Mais s'ils préfèrent faire le jeu plus en jeu de piste puis donner seulement quelques petits accents avec des missions, c'est aussi possible. Donc, c'est pas tout à fait un meurtre et mystère, mais c'est aussi avec les codes, ce qu'on appelle les jeux de piste avec des repères dans la ville. Et le plus important, c'est qu'on se plonge en 1911.
À 1911?
Donc, exactement. Hochelaga-Maisonneuve de 1911, avec ses immeubles, qu'est-ce que c'était à cette époque-là? Donc, on a une carte qu'on donne aux participants qui doivent déchiffrer. Donc là, on est dans les codes un peu plus comme les escape the room qu'on appelle, mais c'est dehors et les pistes sont accompagné par des animateurs. Donc, c'est beaucoup plus libre et donc on laisse pas les gens se perdre dans la ville.
Là. D'accord. Là, on vit à cette époque-là, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de réseaux sociaux, mais si je comprends bien, la désinformation, ça existe déjà, là.
Exactement. On a voulu jouer, se transporter, se téléporter à cette époque qui n'est pas si lointaine, en fait. Hein? Nos grands-parents, ils ont vécu une époque où, lorsqu'on cherchait de l'information, il fallait parler à quelqu'un, à une personne. Et comme notre histoire, c'est à la fois une journaliste, Robertine Barry, qui a effectivement existé. Donc, on a tout un pan de connaître notre histoire de nos héros québécois. Donc, il y a une partie, une journaliste qui cherche à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé parce qu'elle doit rédiger un article le lendemain matin. Et on a les enquêteurs de police avec à la tête Georges Farah-Lajoie, qui est un réel enquêteur qui a existé d'origine syrienne, a intégré la police à cette époque-là. Et donc, on est des acolytes de et des journalistes et des ouvriers et des voisines, ou si on veut jouer Georges Faralajoie lui-même. Et puis, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé avec des indices de journaux qui disent pas les mêmes choses. Mmh. Donc, c'est un petit clin d'œil à l'époque en 2025 qu'on vit, mais en 1911, en sachant très bien que en allant vers les uns et les autres, non seulement on va chercher de l'information, mais on pratique ce muscle-là qui est donc important, qui est le communautaire, le collectif, et ce qu'on fait vivre aux gens.
Bon, si je comprends bien, quand même, on part du principe qu'il y a un meurtre qui a été commis.
Exactement.
Et là, on
essaie...
on n'est pas sûr.
Oui, certains journaux disent que non, c'est peut-être un accident.
Ah, mon Dieu. Alors là, vous nous amenez en bateau, c'est le cas de le dire, hein?
Exactement. Il y a quelques fausses pistes, il y a peut-être des leurres.
Bon.
Mais c'est tout fait de manière vraiment bénéfique et aimable. Il n'y a personne qui va faire une sortie avec théâtrale, avec un couteau. Là, c'est vraiment... Oui, on est dans le meurtre et mystère, mais on est aussi dans quelque chose de très joyeux et agréable et festif.
D'accord. Alors, on parle... Est-ce qu'il y a des acteurs qui jouent là-dedans? On a parlé d'animateurs tantôt, mais est-ce qu'il y a des acteurs, des comédiens, des comédiennes?
Non.
Non.
Ben, en fait, les animateurs qui vont guider les personnes, oui, on est costumés, on s'habille un peu en Sherlock Holmes avec un chapeau puis une veste d'enquêteur, mais les gens peuvent venir eux-mêmes costumés. Fait que c'est ça aussi qui fait la nouveauté, c'est-à-dire que les gens sont libres d'y aller selon leur théâtralité. Donc, il y a des personnes qui viennent et qui prennent un rôle qui est plus artistique, par exemple Rose Ouellette, qui est le nom de quelqu'un de connu, et
oui,
vous direz
la
pas,
pointe,
si
oui.
Les gens peuvent le reconnaître.
Oui.
Donc, ils peuvent jouer Rose Ouellette lorsqu'elle était jeune. Et évidemment, ils peuvent amener ça très loin là, s'ils ont le sens de l'humour puis qui ont envie de théâtraliser leur personnage. Alors, c'est vraiment très libre. Le côté théâtral est par le fait que chaque personne a un personnage qu'ils peuvent jouer à la mesure de leur désir.
Là, j'ai une question. Je disais tout à l'heure que la prochaine représentation aura lieu du 7 au 9 août. Ça veut dire donc que ça dure 3 jours?
Non, c'est l'expérience est entre 1h30 et 2h30 selon...
Okay.
Le débat qui a lieu à la fin. Donc, il y a aussi toute une réflexion à la fin. On a un concours de costumes pour ceux qui veulent venir costumer, mais on a aussi un rédiger votre version des faits avec un petit concours de journalisme clin d'œil à la fin. Donc, ceux qui le veulent peuvent remplir une feuille qu'on leur donne et rédiger comme si c'était eux qui écrivaient l'article.
D'accord.
Et on a un moment un peu de débat entre les personnes et chaque groupe est très unique là, dans ce moment-là, un peu forum, où les gens discutent d'après vous qu'est-ce qui s'est réellement passé.
Pourquoi?
C'est entre 1h30 et 2h. Des fois, c'est un peu plus long parce que les gens se font des amis les uns avec les autres.
Bon, c'est bien correct. C'est bien correct. Hein? Pourquoi avoir choisi le quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal?
Une des raisons, c'est que le personnage Georges Faralajoie était ici.
Mm-hmm.
Et puis, moi, je m'inspire beaucoup des lieux et des endroits dont j'avais fait Véridis dans le quartier latin. Et c'était avec les familles Chérier et Beaubien à cette époque-là, Papineau aussi.
Ouais.
Donc, il y avait plusieurs familles quand j'avais fait Véridis dans le quartier latin. Je l'avais aussi fait dans le Mainland avec des histoires de Mordecai Richler, avec des histoires de fiction. Donc, c'est souvent le lieu comme tel et les personnages qui vivaient à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est ça aussi qui m'a inspirée. Une autre source d'inspiration, c'est évidemment notre bailleur de fonds. Le Développement économique Canada a mis un programme pour développer l'est de la ville de Montréal.
Mm-hmm.
Et puis moi, j'avais déposé ce projet-là pour financer ce type d'aventure, aussi pour faire valoir nos héros, parce que souvent, ce genre d'aventure-là qui est fait là, dans les villes urban games, qu'on appelle dans différentes villes, c'est souvent des franchises qui viennent de l'extérieur, comme Alice au Pays des Merveilles ou comme Sherlock Holmes, justement. Et moi, j'avais envie de mettre de l'avant nos héros québécois.
Alors, parlons justement de l'organisme derrière tout ça. Là, j'essaie de le prononcer comme il faut. ABL Blalab. C'est quoi?
Vous l'avez prononcé exactement de la bonne façon. Il faut simplement prendre son temps.
Ouais.
Et si, ça fait partie de notre mission, ouais, de faire ralentir les gens pour prendre le temps de se parler, marcher, donc tout se fait de manière piétonne. On a des politiques éco-responsabilité, donc nos outils sont faits aussi de manière le plus éco-responsable possible. D'ailleurs, les sacs sont faits en voile, de voiliers qui allaient être jetés. Donc, on est très fiers de ça. Et puis, derrière ABL Blalab, il y a beaucoup de recherches, il y a une maîtrise qui a été déposée de comment utiliser la conception de jeu, donc le game design, au service de l'impact social et environnemental. Et c'est pour ça que j'ai créé ABL Blalab.
D'accord. Bon, on a déjà un peu parlé de ça, mais le but là, de cette expérience-là, vraiment, c'est de faire, d'avoir une expérience, le fun entre nous. Mais je pense qu'il y a des buts plus, peut-être plus spécifiques. Hein?
Oui, en fait, il y en a plusieurs. Puis on est vraiment content du résultat parce qu'on commence à recevoir les rétroactions là, des sondages après expérience. Donc, le fait que les gens connaissent mieux le quartier, connaissent la richesse. Évidemment, dans le titre, là, il y a « Mille et un trésors de l'Est ». C'est aussi venir jeter un regard différent sur nos billets qu'on a d'un quartier, alors qu'il y a toutes sortes de richesses qui s'y passent. Évidemment, aussi, de faire connaître les héros. Les gens apprécient vraiment beaucoup avoir toutes ces informations-là sur, par exemple, Christine Cadet, qui est une des plus jeunes syndicalistes qui était ici dans les textiles, les usines textiles, qui fait partie de nos personnages. Donc, les gens apprécient vraiment beaucoup connaître nos héros de l'histoire québécoise.
Et puis, ils apprennent à ralentir, c'est ça que j'ai compris au départ aussi.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a eu des sessions qui ont été faites, surtout les playtests là, avant de commencer le disque, là, où il y avait des extrêmes chaleurs, puis les gens venaient quand même, puis on prenait le temps d'aller à l'ombre, on prenait le temps de rigoler. En fait, c'est pour trouver les énigmes, il faut parler les uns avec les autres. Donc, une des intentions, c'est aussi de repratiquer ce muscle-là du commun, du groupal, de voir la force qu'on est capable d'avoir et de s'éloigner un peu de toutes les valeurs individualistes, de domination, de vouloir être justement égocentrique, c'est juste une personne qui gagne. Là, on est vraiment dans pratiquer ce muscle-là, puis on nous donne la rétroaction que les gens, ça leur fait vraiment du bien d'avoir une excuse d'être dans une mini-communauté le temps d'une heure et demie, deux heures.
Ça brise l'isolement social, ça aussi, puis je pense que ça fait du bien. Puis c'est pas juste des personnes vieilles ou des personnes jeunes, j'imagine que ça joue sur l'intérêt générationnel en même temps. Il y a vraiment beaucoup d'aspects positifs à cet événement-là. On arrive à la fin. Je vais juste vous demander, si on veut participer, comment est-ce qu'on fait ça? Les billets sont en vente où?
Oui, absolument. Ben, en fait, on a ajouté les dates. Oui, on a le 7, 8, 9, mais on a ajouté samedi qui s'en vient. Il reste quelques places pour samedi 26, c'est à 16h.
Oui.
Et on a aussi ajouté les dates le 16 et 17 août.
Wow.
Donc, on se permet, là, dès que les places sont pleines, d'ajouter d'autres présentations, d'autres séances. Vous pouvez aller sur le site de ablblalab.com. Et vous avez un lien pour vous diriger très facilement sur Viridis 1001 Trésors de l'Est ou sinon tapez Viridis 1001, c'est 1001,
oui.
Trésors de l'Est. Et vous pouvez aussi trouver notre billetterie qui est sur Zephy, qui est aussi une plateforme pour les OBNL 100% québécoise.
Excellent. Ben, Alexia Bérard-Lagounari, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Un grand plaisir. Au plaisir de jouer avec vous.
Certainement. Je vais me trouver du temps, je pense. À plusieurs. Voilà. Merci. À la prochaine.
Bonne journée. Au revoir.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. qu'il détrousse une femme. Il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure.
Gentleman Cambrioleur, une chanson de Jacques Dutronc.
Oui, hein, notre jeudi nostalgie, bon, je ne sais pas, c'était peut-être pas relié au meurtre mystère, mais je trouvais que c'était...
Il y avait du mystère.
Il y avait du mystère là-dedans. Il y a une série qui a joué sur Netflix, je ne suis plus abonné, mais j'ai vu, qui s'appelait Lupin, qui était tournée à Paris. Assez intéressante, merci. Ouais. Et ben voilà, un petit peu violente par bout, mais c'est ça. Le gouvernement du Manitoba lance un appel de candidature pour les prix Mosaïque qui célèbre les contributions des nouveaux arrivants, des immigrants et des réfugiés. C'est un communiqué du gouvernement du Manitoba. La période de mise en candidature est désormais ouverte pour les prix Mosaïque du Manitoba, un nouveau programme provincial de reconnaissance rendant honneur aux contributions exceptionnelles de nombreux arrivants. Des immigrants aussi, des réfugiés, qui aident à renforcer le Manitoba et à le rendre plus inclusif, a annoncé la ministre du Travail et de l'Immigration, Malaya Marcelino. On encourage la population manitobaine à proposer la candidature de personnes, de groupes ou d'entreprises qui, de par leur action, établissent des liens, inspirent le changement et rendent les collectivités plus accueillantes pour tout le monde, ajoute la ministre. Les prix seront remis au cours de la semaine de l'accueil qui aura lieu du 14 au 20 septembre. Chaque année, cette campagne internationale célèbre les valeurs de l'inclusion et du sentiment d'appartenance, ainsi que des initiatives importantes qui sont mises en œuvre dans les collectivités afin de les rendre plus accueillantes pour les immigrants et les réfugiés. Le gouvernement du Manitoba tient à remercier les nombreux organismes qui œuvrent auprès des collectivités et des nouveaux arrivants dont les dizaines d'années de dévouement ont jeté les bases de cette célébration. La ministre fait remarquer que le programme de la semaine de l'accueil au Manitoba sera l'occasion de poursuivre dans cette voie et de se rapprocher encore plus des gens afin d'encourager l'harmonie interculturelle, la solidarité et la fierté communautaire. Le programme inaugural de prix comprend 5 catégories qui soulignent chacune un type différent de contribution, du leadership chez les jeunes à la défense des intérêts communautaires, en passant par les pratiques inclusives des entreprises. Au total, 10 personnes se verront remettre des prix au cours de la semaine de l'accueil 2025 dans les catégories suivantes. Prix de l'étincelle communautaire rend hommage à de nouveaux arrivants qui inspirent leur collectivité par leur vision et leur développement. Le prix jeune bâtisseur de pont, il célèbre des jeunes de 14 à 29 ans qui font le pont entre les cultures, les générations et les expériences. Le prix Pionnier Nouvel Arrivant, il honore les acteurs du changement audacieux qui ouvrent de nouvelles voies pour eux-mêmes et pour les autres. Prix du champion de l'accueil communautaire, il reconnaît les personnes, les groupes ou les employeurs qui cultivent le sentiment d'appartenance et l'inclusion. Prix du cœur de la communauté, il rend hommage aux héros qui offrent de l'empathie et du soutien et qui rendent service aux autres, qui se rendent de mettre au service des autres au quotidien. Alors, pour être admissible, les personnes candidates doivent résider au Manitoba et identifiés comme de nouveaux arrivants ou immigrants ou des réfugiés. Certaines catégories des prix sont ouvertes aux organismes et aux entreprises qui font preuve d'un engagement ferme à l'égard de l'inclusion et du soutien aux nouveaux arrivants. Vous avez jusqu'au 29 août pour soumettre vos candidatures et c'est en ligne au www.manitoba.ca et puis après ça, /Mosaic Awards. Alors, Mosaic Awards, M-O-S-A-I-C-A-W-A-R-D-S, /index. .fr.html. C'est compliqué, mais faites le prix. Je suis sûr que vous faites juste le prix Mosaïque, vous allez vous retrouver.
Ram, bam, bam, voilà tout. C'est le temps des vacances. Ram, bam, bam, voilà tout. C'est le temps des vacances. C'est le temps des vacances. Nous avons gradué, c'est le temps des vacances, la saison pour semer. Allons sur le sable chaud, tout près de la mer. Près de toi, je suis si bien, sans toi, je ne peux vraiment rien. C'est le temps des vacances, partons tous les deux. Que j'ai eu tort, donne-moi tout ton amour. Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours.
La vie,
on s'est aimé. Ah, je t'ai fait pleurer. Et puis tu m'as quitté. Autrefois, mon cœur ne battra que pour toi. C'est le temps des vacances, la saison des mûres. C'est le temps des romances, comme l'été dernier. Reprenons très vite ensemble. Redonne-moi tout ton amour. Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours. Ram, dam, dam, voilà tout, c'est le temps des vacances. Ram, dam, dam, voilà tout, c'est le temps des vacances. Ram, dam, dam, voilà tout, c'est le
C'est le temps des vacances, chanté par Pierre Lalonde.
Moi, j'en connais un qui part en vacances bientôt.
Je sais
pas. Ouais, je sais pas de qui on parle. Moi, j'arrive de vacances, mais... Ah, ben oui, notre cher Mathieu va prendre des petites vacances, puis c'est bien mérité parce qu'il travaille très, très fort. J'ai le temps de vous revenir sur la météo. Alors, c'est pas mal chaud partout au pays. C'est un petit peu plus frais en Alberta, mais quand même. Et c'est de la grosse humidité. Notre ami Dex, on l'appelait Dexter, qui est de retour aujourd'hui. Puis après ça, ça va être son petit frère Rage, qui lui va prendre le dessus, hein, notre ami Orage. Alors, je sais pas si ça va être des orages violents comme on a connu il y a quelques semaines, mais bon... Donc, une journée chaude, et puis il y a plus plein de conseils à vous dire. Hein. Buvez de l'eau, gardez-vous au frais le mieux que vous pouvez. À l'ombre aussi, parce que le facteur de soleil aussi, ça peut être mauvais. Et puis, on va faire un petit tour après la pause du côté du Festival de Lanaudière. On va parler des concerts qui restent à voir là, d'ici la prochaine semaine. Ça se termine le 3 août.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
on vient d'entendre la troisième partie de l'été, ce qu'on appelle presto des quatre saisons de Vivaldi. J'ai mis ça parce que ben, c'est l'été, puis il fait chaud, puis ça me permettait de vous amener à parler du Festival de Lanaudière qui se poursuit jusqu'au 3 août, une saison d'exception qui promet d'enchanter les amoureux de la musique classique et bien au-delà. Cette édition, placée sous le thème de l'altérité, on va en discuter tout à l'heure avec mon invité, réunit plus de 1000 artistes de calibre international pour 25 concerts dans des lieux aussi grandioses qu'intimes où la musique rencontre la nature. Donc, pour en parler, nous recevons Renaud Loranger, directeur artistique du festival. Bienvenue à Canalem.
Merci. Bonjour.
Bonjour. Alors, depuis 78, c'est quand même un petit bout, hein, le Festival de Lanaudière est devenu un incontournable pour les mélomanes. Pourquoi, d'après vous?
Ah, ben écoutez, pour la qualité de sa programmation, pour la magie de l'expérience, le plaisir de se retrouver, que ce soit ici à Joliette, par exemple, à l'amphithéâtre Fernand Lindsay, qui porte le nom de notre illustre fondateur,
oui,
ou encore dans certaines des plus belles églises historiques de la région, dans lesquelles on propose des concerts de musique de chambre.
Oui, parce que beaucoup d'églises ont des acoustiques incroyables, hein? C'est ça qui était un...
Absolument, ouais. Absolument. Ouais. Et puis on a aussi, si vous voulez, ça fait partie un peu de l'ADN du festival, évidemment, on associe le festival à ce site exceptionnel, l'amphithéâtre à Joliette,
ouais,
mais ça fait partie vraiment de l'éthos du festival de proposer au public d'aller à la rencontre de grands artistes, certains qui se produisent pour la première fois chez nous, dans des lieux justement qui sont pas les lieux habituels, on va dire, pour les concerts, ou qui sont, comme les églises, souvent des lieux très intimes. Hein, on parle de peut-être 200, 300 places. Ce sont des expériences de concerts tout à fait uniques.
Vous avez choisi cette année le thème « L'altérité ». Expliquez-nous votre choix.
Oui, ben écoutez, c'est une sorte de miroir de la vie, hein, en fait, une sorte de miroir de l'existence, la réunion des contraires, des contrastes, le dialogue entre des éléments, des œuvres, des artistes qui au fil, si vous voulez, même au fil des siècles, hein, la musique classique, on travaille beaucoup avec du répertoire entre guillemets ancien, ben qui se répondent ou qui nous montrent certains, qui mettent en lumière certains aspects de la vie qui ont l'air peut-être de se contredire après ma mort, mais qui en fait construisent la mosaïque de l'expérience humaine.
On est rendu à mi-chemin de votre programmation, puis je regarde votre programmation à venir, ça regorge de concerts incroyables. J'avoue que de savoir que Kent Nagano va être là, puis qu'il reprend les rênes de l'ESM pour l'occasion, c'est quelque chose.
Ben tout à fait. Kent Nagano, qui est un grand ami du festival, qui s'est produit ici à Joliette, à l'amphithéâtre, plusieurs fois pendant de nombreuses années, qui ont correspondu évidemment à son mandat de directeur musical de l'OSM. On est très heureux de le retrouver, donc les 1er et 2 août, avec l'OSM, comme on vient de dire, dans des œuvres qui sont toutes très, très importante pour lui. Ça, c'est intéressant aussi, que ce soit la troisième de Brahms, troisième symphonie de Brahms, ou la grande symphonie de Schubert, ou la symphonie concertante de Mozart avec deux jeunes musiciens qui nous viennent d'Europe, tout à fait remarquables. Et puis, ben c'est ça. Ça, c'est le festival aussi. C'est l'esprit du festival. C'est la rencontre exceptionnelle avec des artistes de renom. Dans le cas de Nagano, évidemment, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien déjà.
Oui, et quelqu'un qui... moi, je vais me dater. Moi, je l'ai connu du temps qu'il était à l'orchestre de San Francisco.
Ah oui.
Et il parlait déjà français quand je l'ai rencontré. Et c'est bien quelqu'un sûr, de très accessible, sûr, qui aime beaucoup la rencontre avec les gens aussi. Alors, c'est peut-être l'occasion, je ne sais pas s'il va se rendre accessible lors du Festival de Lanaudière, mais c'est quelqu'un à qui on peut parler puis qui a des choses à dire.
Complètement. Oui. Mais absolument. C'est non seulement un grand musicien, un grand chef d'orchestre, mais c'est aussi un grand intellectuel, un penseur, quelqu'un qui réfléchit depuis des décennies sur la musique, évidemment, mais sur l'art, sur la société. Et puis, c'est un de nos collaborateurs les plus précieux, évidemment.
Ah, bravo. Il y a aussi Yannick Nézet-Séguin, hein, qui va être là.
Ben voilà, j'allais dire, là, on est, vous le dites, hein, on est un peu au milieu du festival, et puis on arrive vraiment dans le vif du sujet. Yannick Nézet-Séguin qui revient donc dès ce dimanche après-midi, le 27 juillet, Le concert à l'amphithéâtre a lieu à 16h avec une pianiste d'exception, Yuja Wang, merveilleuse pianiste sino-américaine qui se produit pour la première fois au festival. C'est peut-être une des plus grandes vedettes de la scène classique dans le monde aujourd'hui. Puis pas que on ne se concentre que sur le glamour, mais le glamour est intéressant, important aussi quand il s'offre à nous. Donc, deux concertos de Ravel et la seconde symphonie de Sibelius dimanche après-midi. Ça, c'est à marquer d'une pierre blanche, assurément. Et on nous annonce finalement un temps et une température assez clémente, hein, ce qui malheureusement n'a pas été le cas dans les dernières semaines. Mais je pense que là, on arrive à destination finalement.
Oui, parce que c'est sûr qu'il faut se rendre là-bas. S'il fait tempête, comme on a connu il y a deux semaines, ça peut être un peu problématique là, pour les déplacements.
Oui, c'est plus difficile, mais comme les festivaliers, certains festivaliers en tout cas aiment à me le dire, ça fait aussi partie de l'expérience.
Tout à fait. Autre point, c'est... Voilà. Oui, est-ce qu'il y a d'autres concerts à souligner là, qu'il ne faut pas manquer?
Ah ben assurément, on a parlé de Kent Nagano, mais je mentionnerai aussi le concert de clôture avec Yannick Nézet-Séguin, toujours le 3 août, Tristan et Isolde de Wagner. Oui. En concert, on sait que Yannick est directeur musical du Metropolitan Opera à New York et on développe avec lui une sorte d'alignement avec certains de ses projets à New York, des opéras qu'il va diriger pour la première fois au Metropolitan. Donc, c'est une sorte d'avant-première. C'était le cas d'Aïda de Verdi l'année dernière. C'est le cas avec Tristan de Wagner cette année. Une sorte d'avant-première d'une nouvelle production à New York dans la saison qui commence en septembre. Et puis même ce week-end, en fait, dès demain, on reçoit demain les violons du roi et Bernard Labadie avec la violoncelliste Sol Gabetta, qui est aussi une superstar de la scène classique qui est très, très, très rare en Amérique. En fait, c'est la première fois qu'elle vient en Amérique du Nord depuis 7 ans. Évidemment, la pandémie est passée par là, mais pas que, en fait. C'est qu'elle est très sélective par rapport à ses engagements nord-américains. Donc, on est absolument heureux et honoré de l'avoir demain soir. Programme classique, hein, Mozart, Haydn, que du bonheur. Et samedi soir, toujours à l'amphithéâtre, on a de la grande visite de France avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles. Donc, Versailles comme dans Château de Versailles. C'est un ensemble qui est en résidence dans le théâtre, au théâtre du Château de Versailles, qui présente toute une saison de concerts sur place avec un grand chanteur, Franco Fagioli, qui se produit pour la première fois au Canada. Donc ça promet aussi des feux d'artifice vocaux tout à fait surprenants, samedi le 26 à l'amphithéâtre, toujours. Tous les détails sont sur le site, hein, lanaudière.org. lanaudière.org.
Oui,
on peut. Et puis encore une fois, on nous annonce du beau temps.
Ben, deux petites questions qui me viennent à l'esprit parce que vous avez mentionné tout à l'heure la COVID là, qui faisait en sorte que certains artistes choisissent leurs concerts peut-être avec plus de sélectivité. Est-ce que votre festival se remet parce que beaucoup d'organismes, beaucoup de festivals ont trouvé les temps durs depuis la pandémie? Comment
bien
ça va pour vous?
Ça va bien, mais je vous dirais que l'équilibre est tout à fait fragile. Ça, c'est un peu un autre sujet, mais c'est un sujet très important, évidemment, puis j'essaie d'en parler le plus possible.
Il faut en parler,
que les institutions, le Festival de la Lanaudière est aussi complètement dépendant de son écosystème, hein, parce qu'on travaille énormément avec des musiciens. On a beaucoup de visiteurs étrangers, mais on travaille avec les musiciens d'ici, principalement avec les grands orchestres, que ce soit l'OSM, l'Orchestre métropolitain. On a parlé des violons du roi il y a quelques secondes. Ces institutions-là souffrent, l'ensemble du milieu souffre et l'équilibre d'une institution comme la nôtre est, hélas, tout à fait fragile et tout à fait précaire. Néanmoins, ma foi en l'avenir me porte à croire que les choses vont quand même continuer de bien évoluer, mais il y a vraiment une réflexion, puis plus qu'une réflexion, peut-être une discussion commune très, très urgente à avoir au Québec et au Canada de façon plus large sur le financement, la pérennisation des institutions culturelles, parce que le public est présent. Nous, à Lanaudière, on vend, en dollars, on vend plus de billets qu'à n'importe quel autre moment dans notre histoire, mais la structure de coûts est tellement différente, elle est tellement plus lourde qu'il y a 5 ou 6 ans, que tout ça ne produit pas énormément de sérénité, si vous voulez. Donc, Je souhaite vraiment de tout cœur que tout le monde ensemble, là, mécènes, publics, subventionneurs évidemment, artistes, on puisse avoir des vraies discussions sur la question culturelle chez nous. Puis je pense que comment dire, le contexte n'a peut-être jamais été aussi propice avec tout ce qu'on vit en ce moment, tout ce qu'on traverse là, notamment avec nos voisins américains. Donc faisons-le.
Et ça aussi, ça pose des problèmes parce que on l'a vu, il y a moins de visiteurs états-uniens qui viennent au Canada. Il y a des artistes qui hésitent à sortir des États-Unis de peur de ne pas pouvoir retourner.
Absolument.
C'est compliqué pour tout le monde. Moi, j'aimerais revenir quand même parce que c'est un beau festival. J'y ai été plusieurs fois dans ma vie, dans le passé. Alors, je vais quand même dire que il y a moyen de se procurer des billets. On l'a dit sur lanaudière.org, il reste des billets. Maintenant, les places, j'imagine que vos salles sont relativement accessibles pour les personnes à mobilité réduite.
Ah, mais tout à fait, oui, tout à fait. Il y a des places pour les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs.
Ouais.
Il s'agit simplement de l'indiquer au moment de la réservation.
Tout à fait, parce que c'est important pour nous. Beaucoup de nos auditeurs, auditrices sont des personnes qui vivent avec des déficits capacitaires ou des déficiences capacitaires. Et pour les gens qui n'ont pas de véhicule pour se rendre à la Naudière.
Ah, ben voilà, là, vous extrapolez ma pensée.
J'y allais, hein?
Il y a un service de navette, en fait, à partir du centre-ville de Montréal. C'est très important. Il faut le répéter parce que ça existe depuis longtemps, mais les gens n'y pensent pas nécessairement. Même chose, la navette, on peut faire la réservation aller-retour directement sur le site du festival. Donc, la navette quitte le centre-ville de Montréal, arrive à l'amphithéâtre et repart à l'issue du concert. C'est un service tout à fait impeccable et important, je trouve aussi.
Bien, bravo d'avoir pensé à ça. Merci beaucoup, Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de la Naudière.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume.
L'indémodable Pink Martini et sa chanson sympathique.
Très sympathique. L'activité physique peut améliorer la santé mentale des adolescents. C'est par Paula Cordova Alegre et Marina Francine Gallego, publié le 15 juillet sur theconversation.com. Pensées suicidaires, addiction, troubles alimentaires, anxieux ou dépressifs en matière de santé mentale, l'adolescence est une période à risque. Cette étape de construction identitaire peut s'avérer particulièrement éprouvante en raison notamment de l'exposition accrue aux pressions extérieures auxquelles sont exposés les jeunes en quête d'autonomie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un jeune de 10 à 19 ans sur 7 souffre de tels troubles, soit 15 % des 1 300 millions, alors c'est du monde à messe, hein, c'est 1 milliard 300 millions d'adolescents qui vivent aujourd'hui sur notre planète. Donc 15 % de ce nombre-là, rapidement, la vue de nez, ça nous donne quand même 130 millions, 150, 160 millions dans ces eaux-là. En tout cas, j'ai pas une calculatrice dans la tête, mais ça fait du monde. Autre chiffre marquant chez les 15 à 29 ans, le suicide est la troisième cause de décès. Une statistique alarmante qui souligne l'urgence de mettre en œuvre dès le plus jeune âge des stratégies préventives efficaces. La dépression et l'anxiété semblent être des affections les plus répandues chez les adolescents. Ces deux troubles partagent certains symptômes et dans bien des cas se traitent selon des approches similaires. Pour prévenir leur survenue, les habitudes de vie jouent un rôle déterminant. Les recommandations en matière de santé mentale insistent notamment sur le fait d'éviter de consommer d'alcool, du tabac ou autres drogues. Cultiver un environnement social sain et pratiquer une activité physique régulière font également partie des conseils à suivre. Néanmoins, ces préconisations sont ignorées par une grande partie de la population mondiale et notamment par les plus jeunes. Au cours de l'adolescence, nombre de comportements évoluent. On constate notamment que la pratique du sport et de l'activité physique par des élèves diminue nettement lorsqu'ils passent à l'enseignement secondaire. Et d'autres conclusions, quatre conclusions à la lumière de la science. Plusieurs études démontrent que pour améliorer la santé mentale, il est important de ne pas rester sédentaire. Voici donc les principaux points à ce sujet. Les adolescents inactifs présentent davantage de symptômes de dépression et d'anxiété. Les jeunes ne pratiquant pas d'activité physique régulière sont de loin ceux qui souffrent le plus de symptômes émotionnels négatifs comme tristesse, découragement, nervosité et inquiétude. Les études récentes menées en Espagne auprès de plus de 10 000 adolescents l'ont à nouveau confirmé. Plus le niveau d'activité physique et de performance est élevé, moins les symptômes sont marqués. Les adolescents en souffrent davantage, les filles tendent à présenter plus de symptômes d'anxiété et de dépression que les garçons, particulièrement à mesure qu'elles avancent dans leur adolescence et la puberté. Et enfin, ça a des bénéfices durables. Au-delà des effets immédiats, une revue de littérature récente suggère que les filles et les garçons qui pratiquent des activités physiques en loisirs durant leur enfance et l'adolescence pourraient bénéficier sur le long terme davantage de comportements d'avantages comportementaux et sanitaires.
Il y a des moments si merveilleux qu'on voudrait que le temps s'arrête, que les horloges de cette lieu se taisent un peu, se taisent un peu. On cherche émerveillé la petite fleur de l'impossible. Sitôt que tu l'as dans la main, elle est fanée le lendemain. Il y a des soirs si malheureux qu'on voudrait que le temps éclate. On fait semblant d'être deux dans l'illusion d'un coin de bleu. Éteins les mille chandeliers, tu restes seul sous les étoiles. Ton téléphone est sourd-muet, ton petit théâtre est fermé. Thank you. beau, tout est si mieux, que l'on voudrait mourir un peu. Alors voici que dans ta main, la petite fleur de l'impossible se met à renaître soudain. Il y a de fabuleux matins. Il y a des moments d'arc-en-ciel où l'univers stoppe sa course. Une simple nuit de Noël te met des larmes à fleur de ciel. Et tu te demandes pourquoi cette nuit-là te démesure. Va, ne cherche pas plus longtemps, l'homme ne reste qu'un enfant. Un enfant. Un enfant.
Des moments si merveilleux, une chanson de Gilbert Bécaud.
Oui, hein, c'est une belle chanson. Moi, qui a une, ça a beaucoup une signification importante dans ma vie. Il y a, en fait, le 19 juillet, ma maman aurait eu 98 ans. C'était sa chanson préférée. Et je dis aux gens, je dis, on n'a qu'une mère, hein? Même quand elle est partie, on y pense encore. Puis j'ai une petite pensée aussi pour un ami à moi qui a été père aidant de sa maman pendant, je pense, une bonne dizaine d'années facilement, là, mais plus les dernières années, qui était atteinte d'Alzheimer et qui est décédée là, cette semaine. Puis on a beau prévoir, hein, il trouve ça très triste. Alors je voulais faire un petit coucou à Patrice Lavoie. Je sais qu'il nous écoute régulièrement et qui a vécu, en fait, c'est vraiment beau, il a vécu ce moment avec sa mère atteinte d'Alzheimer très publiquement sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Donc je vais faire un petit coucou, puis vous saluer, ça fait saluer tous ces gens, parce que c'est important, c'est important. Alors, je voulais peut-être vous parler d'une nouvelle. J'essaie de voir si on a la décision. Semble-t-il que semble-t-il que les 5 joueurs de hockey là, qui étaient en procès pour une agression sexuelle, si vous suivez le dossier, donc je parle de ces anciens membres d'Équipe Canada là, en 2018 accusés d'agression sexuelle. J'essaie de lire sur les sites d'information et ce que je lis, c'est que le juge aurait dit que le témoignage de la plaignante ni crédible ni fiable. Ouh là là, ça augure pas bien pour cette personne là, qui a fait cette démarche. Alors, à suivre dans les prochains jours. J'en profite pour vous dire aussi que l'Université de Columbia accepte de payer 221 millions de dollars au gouvernement fédéral des États-Unis. Donc, une amende, c'est pour mettre fin aux enquêtes menées là, par l'administration Trump contre cette université, accusée d'avoir toléré les manifestations pour la fin du conflit de Gaza, accusée donc d'être antisémitique. Et rappelez-vous que le gouvernement Trump avait menacé de couper des centaines de millions de dollars en subventions. Il s'en est pris aussi également à l'université Harvard pour les mêmes raisons. Harvard résiste encore et toujours, mais c'est à voir. Donc, alors Trump aurait eu raison de l'université Columbia à New York. Et je vous rappelle que notre ami Dex est de retour aujourd'hui, soit que ça va être humide pour ceux qui vivent dans le centre du Canada, Québec, Ontario, sud du Québec surtout. Il y a des valeurs donc qui pourraient aller en termes de chaleur à 43, 40, j'ai même vu 44 degrés, 45 degrés là, sur, dans certaines municipalités. Et ça va être suivi ce soir et cette nuit de gros orages, alors faites attention. Je m'appelle Denis Martel Chabot, j'aimerais remercier Mathieu Tessier qui part en vacances demain. Bien, bonnes vacances Mathieu, puis au plaisir de retravailler avec toi. Puis nous, on va être de retour lundi 9h30. Au revoir.